Hey, avant de démarrer ce nouvel épisode, il faut que je vous présente ma nouvelle application Sport Science Test. Saviez-vous que pour mesurer la puissance, les équations que nous utilisons obtiennent 2% d'écart de précision avec des plateformes de force ? Saviez-vous que l'algorithme de Sport Science Test permettait simplement en filmant le mouvement de savoir quels muscles étirer ou renforcer pour l'optimiser ? Que vous pouviez tester l'endurance de dizaines de joueurs à la fois sans jamais vous tromper ? Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que sait faire Sport Science Test pour seulement 99€ par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode d'ABD Podcast. Je reçois pour la seconde fois Simon Trubert.
Bonjour Simon, Aurélien, bonjour à tous.
Merci de venir, de revenir nous partager ton expertise. Simon, qui est tout à la fois coach sportif et kiné, c'est précieux ce genre de profil parce qu'il partage sur des thèmes qui nous concernent tous. C'est particulièrement intéressant. Aujourd'hui, on va parler de genoux.
Carrément.
On sait à quel point ça peut être une grosse problématique, énorme source de blessures, mais particulièrement complexe à gérer dans le return to play. C'est le thème de cet épisode.
C'est ça, même on va plutôt parler même du LCA, de la rupture du croisé. Genou, il y a plein d'autres blessures, mais je pense que celle qu'on connaît tous et qui nous a tous impacté plus ou moins de près ou de loin.
En tout cas, qui nous fait peur à tous, même ceux qui n'ont pas été blessés.
C'est la rupture du croisé.
Très très longue convalescence, longue opération. L'orthopédie, on sait, c'est toujours très très lourd. Hein. En général, si on voit la vidéo avant de se faire opérer, on ne se fait pas opérer.
Mauvaise idée.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est sans surprise finalement que les protocoles sont assez lourds, complexes, longs. Et il y a des priorités. Il y a des priorités, il y a des étapes.
Carrément.
À ne pas brûler.
On va revenir là-dessus, sur ces étapes. Première phase, on va dire, ça va être premier objectif pour le prépa ou pour le kiné, je pense, ça va être de refaire marcher la personne correctement. Donc ça va plutôt être fait par le kiné. Le prépa, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pendant ce temps-là? Il va pouvoir travailler tout ce qui est cardiovasculaire avec le haut du corps. Il va pouvoir commencer à travailler sur le travail de force sur le membre sain encore. Ça va permettre de maintenir un niveau de force plus conséquent sur la jambe opérée.
Juste avant de continuer, une toute petite parenthèse. Rappelons-nous que si on a la moitié d'un bonhomme fonctionnel, on s'entraîne. Okay, donc arrêtez d'arrêter. Les médecins, arrêtez d'arrêter. Et les athlètes, arrêtez de vous arrêter. Si vous êtes blessé du genou, même gravement, le haut du corps fonctionne encore. Et effectivement, si vous avez un préparateur physique un tout petit peu créatif, vous allez réussir à continuer à maintenir tout un tas de standards, notamment au niveau des performances neuromusculaires, mais aussi évidemment cardiovasculaire. Et puis, ce que disait aussi Simon, c'est que la force est centrale. Hein. Quand on parle de force maximale ou de puissance maximale, les adaptations sont centrales. Ce qu'on fait sur une jambe se transfère en partie sur l'autre.
Carrément. Je pense que, même avant d'en venir là, je pense qu'on n'a pas parlé d'avant l'opération, mais ça se prépare, cette avant-opération.
Je fais une opération, une rééducation réussie.
Ah ouais,
passe par une préparation à l'opération
carrément.
Réussie.
Et cette préparation, elle peut carrément être faite par le prépa physique. Il va falloir faire les cuisseaux les plus gros possibles, les plus forts possibles. Commencer à travailler tout ce qu'on va pouvoir travailler aussi après l'opération, qui sera altérée parce qu'on aura de nouvelles sensations, etc. Donc tout ce qu'on va prendre avant, ça va nous permettre d'aller plus vite après. Et je pense que ça, c'est hyper important. Pareil pour le kiné, redonner déjà les petits exercices qu'on va donner juste après l'opération, où il y aura énormément de douleur, le genou sera gonflé, la personne n'aura aucun ressenti. Le fait de le faire un petit peu avant, je pense que ça permettra de gagner énormément de temps et de dédramatiser un petit peu la chose.
Si vous êtes athlète de haut niveau, concrètement, l'opération doit survenir le plus tôt possible parce que vous êtes au top de vos qualités neuromusculaires, proprioceptives et en termes de masse musculaire, vous êtes probablement au mieux de ce que vous pouvez être. Carrément. Puisque vous êtes entraîné, vous êtes en cours de route. Si vous n'êtes pas athlète de haut niveau, que vous blessez au ski, voilà, là, à l'inverse, prenez un tout petit peu de temps, je parle sous contrôle du kiné, un peu de temps pour vous préparer à cette opération parce qu'il va falloir gagner, comme tu disais, avoir les plus gros cuisseaux possibles, gagner un maximum en masse pour que lors de la fonte musculaire, d'une part, déjà on parte de plus loin, donc on arrive un petit peu moins loin, mais surtout pour que ça accélère la phase après de
récupération.
De récupération, de remusculation.
Carrément.
De réveil. Alors on parle de force, mais on parle aussi de proprioception.
Ouais, bien sûr.
Tout ça, on va perdre les sensations, on va perdre la finesse, on va perdre les appuis.
Le rôle principal du ligament, c'est pas forcément de limiter un mouvement. Ça va vraiment, c'est ce qui va permettre d'apporter les informations au cerveau. Le ligament, il va être rompu, on va mettre une nouvelle structure à la place. Ça va pas forcément remplacer son rôle de neurotransmetteur, entre guillemets. Ça va être pris par les différents muscles autour du genou, les différents tendons, la capsule articulaire. Ça, il va falloir réentraîner le cerveau pour amener de nouvelles connexions là-haut et que l'esprit ait bien la capacité à sentir le mouvement comme c'était avant, en fait. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse préopératoire.
Une opération réussie, ça se prépare.
Exactement. Donc, on revenait, première étape, bien remarcher, donc ce que pouvait faire le kiné, le préparateur physique. Une fois que c'est bon, deuxième étape, ça va être reprendre à courir le plus rapidement possible, j'ai envie de dire, sans risque, bien sûr. Hein. Donc, sans risque pour un patient ou un athlète, ça veut dire plus d'inflammation, pas d'œdème, ça paraît logique, et reprise progressive, forcément.
Et stabilité. Du genou, j'imagine,
On a quelques petits tests, exactement, qui vont être hyper intéressants, les hop tests. Single hop test, triple hop test, donc test de saut avec plein de normes, etc., qui vous seront indiquées dans ton livre, je pense, peut-être.
Oui, ils sont dans les tests de terrain.
Exactement. Hyper, hyper important. On va contrôler le membre sain du membre opéré. On va chercher à obtenir des ratios entre droite-gauche de l'ordre de minimum 70% globalement. C'est un peu généraliste, mais voilà.
Ouais, mais ça donne des repères.
Carrément. En plus de cette partie quantitative, je pense qu'il va falloir regarder la qualité des sauts, c'est hyper important. On peut avoir 90%, mais un contrôle du valgus dynamique dégueulasse.
On revient sur les notions de contrôle, c'est-à-dire que la performance absolue sur des gens blessés, il faut se rappeler que même aussi puissant et efficace il puisse être, ça reste des gens fragiles.
Mais oui.
Ils sont dans une phase où, et probablement que le fait qu'ils soient performants va les exposer d'autant plus à la blessure.
Ouais, le sport amène la blessure de toute manière, ça c'est une certitude. Et pour revenir sur ce valgus dynamique, le fait de le travailler en rééducation ou dans l'athlétisation carrément, je pense que c'est hyper important parce que, à mon avis, quand on se blesse, il y a aussi sûrement un déficit de ce contrôle de valgus dynamique et c'est à ce moment-là, à l'instant T où on s'est blessé, on n'a pas su le contrôler, le valgus dynamique, et du coup, ça a pété.
Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussel-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences.
Donc vraiment hyper important, c'est ces tests de saut, on a dit pas d'inflammation, il faut avoir une extension complète, ça paraît logique, mais ça c'est pour marcher de base, voilà, une bonne extension de genou. Donc on va être sur ces critères-là. Rien d'autre. Pour la course, c'est pas mal.
Sur la reprise de la course, du coup, toi, tu utilises des outils particuliers?
Comment je fais pour reprendre la course? Progressif, je vais... Forcément, logique. Moi, j'utilise un protocole de la clinique du coureur. C'est une formation très connue chez les kinés qui allie course et marche dans un premier temps pour arriver jusqu'à une demi-heure de course continue, footing, allure vraiment légère sur plusieurs semaines, j'ai envie de dire, pour en général, quoi. Après, bon, voilà, on va adapter en fonction des sensations de la personne. Si elle n'est pas du tout inflammatoire.
Encore une fois, de la qualité des appuis.
Exactement. Comment il est physiquement, est-ce qu'il est réactif au sol ou est-ce qu'il s'écrase complètement sur une jambe et l'autre, c'est bien. Bon, là, on ne va pas augmenter de la même vitesse, on va travailler d'autres choses en parallèle en salle, on va dire.
Moi, j'utilise une application, je ne sais pas si tu la connais, Runmatic.
Je m'en sers pas, mais...
Runmatic, qui te permet de monitorer un peu le temps de vol, la qualité des appuis.
D'accord.
C'est un peu la même technologie que MyJump ou MySprint.
Moi, je vais tester ça, alors.
L'idée, c'est de filmer et de se servir des capteurs à très haute fréquence des smartphones pour détecter, en fait, indiquer à l'application le moment où le pied est en appui au sol. Et du coup, le corps est en suspension.
Bien sûr.
Donc, on a le temps de vol sur chaque appui, la fréquence des appuis, la différence droite-gauche.
Je vais tester ça.
À partir de l'arrière, ouais, c'est hyper intéressant.
Je pense que je vais tester ça dès la semaine prochaine, à mon avis, parce que ça peut être un outil clairement très intéressant.
Ah ouais, essayer ça, Runmatic.
Pour guider la prise en charge après, je pense.
Hyper, et dans une deuxième phase, du coup, je vais utiliser peut-être un peu plus des profils force-vitesse,
ouais,
notamment sur le sprint, mais plus tard, du coup.
Ouais, je pense qu'on y reviendra un petit peu après sur la partie vraiment retour à la perf et au jeu aussi. Donc voilà, retour dans un premier temps, en termes, si on peut parler de délai, entre guillemets, mais c'est très généraliste. On va dire que ça passe de l'ordre de 2 à 4 mois. Pour la reprise de course en fonction de comment la personne récupère. Il y a eu une revue de littérature qui a été faite il y a 2-3 ans qui recensait un petit peu tous les différents critères qui pouvaient être retrouvés sur la reprise de la course. C'est assez étonnant parce qu'on s'est rendu compte que 80% des critères, c'était le critère temporel en premier qui rentrait en compte sans autres facteurs extérieurs. Alors oui, bah, le temps, voilà, c'est important, mais... S'il n'y a pas une évaluation fonctionnelle derrière, je pense que ça a aucun sens en fait de dire que 3 mois tu reprends la course, ça ne veut rien dire.
Si c'est 3 mois et demi, c'est 3 mois et demi.
C'est 2 mois, c'est 2 mois s'il est capable. Il n'y a pas, faut pas se mettre de barrières psychologiques, j'ai envie de dire, d'un côté, qui vont amener soit de la déception d'un côté, soit de l'avoue entre guillemets si on arrive à faire avant 3 mois. Mais je pense que ça ne sert pas à grand chose.
Ouais, et puis quand on a eu beaucoup de gens en réathlétisation, on sait que les cycles sont pas constants. C'est pas parce qu'on fait 2 mois sur une première phase avant de retourner à la course que la phase suivante va être plus courte. Si ça se trouve, on va reperdre du temps par ailleurs parce que
on
a progressé sur certains paramètres très vite et puis sur d'autres,
on va mettre plus de temps parce que la personne va avoir plus de mal à s'adapter, etc.
Et à l'inverse, on va gagner des fois du temps justement en prenant le temps de faire les choses bien dans la première phase.
C'est ça. Bien coacher dès les premières séances un mouvement va nous faire gagner énormément de temps après. En préopératoire, bien coacher un squat, bien coacher une fente. Si notre patient ou l'athlète il a compris comment on faisait, après quand il va être blessé, qu'il va revenir sur le même mouvement, ça va se faire tout naturellement et puis directement on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Ça sera ce temps-là qui sera perdu, de perdu. Et ça, c'est, je pense, hyper important.
Ok, du coup, ça y est, on court?
Ouais, on court, ça y est, c'est cool. Va falloir progressivement repartir sur un petit peu de changement de direction, mais léger, voilà, varier un petit peu les terrains, le sol, quoi, la surface, sur du tartan, un peu de gravier, voilà, en restant prudent, bien sûr, toujours. Et puis après va venir l'étape que tous les sportifs attendent, j'ai envie de dire, le retour au terrain. Alors très très important, et souvent dans le monde amateur, j'ai envie de dire, bon, monde professionnel, ouais, c'est quand même plutôt bien fait, mais dans le monde amateur, c'est vraiment c'est chaud quand même. Hein.
Ouais, c'est compliqué. On connaît tous ça.
Le kiné, ça va, t'arrives à sauter un petit peu. Bon bah ok, retourne t'entraîner. Toi t'es là, t'es content, tu vas t'entraîner, tu fais 2 heures à fond avec les potes.
Plouah, le
samedi, ouais, t'es bien chaud. Le samedi, on te dit, ouais, tu veux jouer? Ouais, ouais, je suis chaud. Tu fais 90 minutes ou 80 minutes. Et puis et au final, c'est hyper risqué. C'est hyper risqué. Hyper risqué. Je pense qu'il y a des petits critères à valider avant. Et après, une fois que les critères seront validés, il faut que l'entraîneur soit aussi intelligent pour faire une reprise progressive, réintégrer le joueur progressivement dans le groupe, si c'est un sport d'équipe ou à la pratique. Je pense que ça, c'est la clé, et il faut réussir à faire changer les choses, parce que je pense que malheureusement, aujourd'hui, c'est encore trop loin pour les entraîneurs. Mais je pense que
alors,
ça va changer.
Des repères un peu clés en main pour le return to play, d'abord, avant même le return to perf, hein, parce qu'il y a vraiment deux étapes. Hein. Il y a l'étape où je vais revenir gentiment à l'entraînement, et l'étape où je vais revenir au niveau que j'avais avant. Ce n'est pas la même chose.
Et ça peut prendre énormément de temps, plusieurs années.
Il faut éduquer les joueurs à ça, parce qu'ils vont revenir, eux, dans leur tête, ça y est, j'ai le droit de jouer, je reviens exactement aux vitesses de déplacement, aux impacts, aux intensités que je mettais avant. Or, il n'est pas prêt. Au-delà de la fragilité mécanique, il est désentraîné.
Bien sûr.
Spécifiquement désentraîné. Donc, il est exposé à la blessure s'il revient sur son niveau de jeu habituel, comme ça, du jour au lendemain.
C'est ça, le temps que le corps s'adapte aux différents impacts, si c'est un sport de contact ou de combat, ça va prendre un certain temps, ça ne va pas se faire en un mois. Donc, la recette, entre guillemets. Pareil, on va refaire nos tests de saut. Là, il faut être proche des 90%. Hein, c'est hyper important. On va faire un test de force. Alors, maintenant, souvent, c'est fait, dans les grandes villes, du moins, sur isocinétisme. C'est le gold standard. On sait qu'il y a les ratios fonctionnels, etc. Au niveau quadri-ischio, il faut des niveaux de force proches quand même de 90%. C'est hyper, hyper important, je pense. Généralement, ça se fait bien si dès le départ, on a commencé à travailler la force ou à maintenir avec l'autre jambe, si on a bien préparé avant. Ce n'est pas quelque chose qui limite fondamentalement la reprise du sport. Donc les hop tests, on va les faire en croisée maintenant aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher à passer de part et d'autre d'une bande, enfin d'un espacé de 30 cm, enfin, bref, vous regarderez ça sur internet directement. Il va y avoir des tests de sauts latéraux aussi également, qui vont être hyper importants. C'est nouveau, ça fait 2-3 ans que ça sort dans la littérature, c'est hyper intéressant. Il va y avoir des tests de stabilité lors de sauts rotatoires, etc. Ça va être vraiment, vraiment intéressant également.
À différentes hauteurs, j'imagine aussi.
Ouais, il y a tout ce qui est drop jump. Ça c'est pas mal. On est en train de faire un début avec Thomas. Il y a un sujet sur la force de réactivité au sol. Ça, on attend de voir la présentation. Ça va être hyper, hyper intéressant. Il y aura ça peut-être dans les années à venir qui va sortir, je pense aussi. Avec MyJump, là, on peut calculer aussi le temps d'impact. Vraiment important, voir la qualité de pied aussi de notre athlète. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? L'amplitude. On avait dit tout à l'heure, amplitude en extension complète. La flexion, moi personnellement, c'est quelque chose que je travaille peu dans la première phase de prise en charge, parce que pour moi, ça va récupérer progressivement, en fait, avec la diminution de l'œdème et de l'inflammation. Par contre, dans un second temps, pour récupérer les derniers degrés, il va falloir y aller dans cette flexion. Et je pense que c'est une nécessité, parce que si le kiné ne fait pas la demande à l'athlète de se mettre à genoux et de venir chercher une flexion max, un talon-fesse, la personne ne le fera jamais naturellement, toute seule.
Il y a une phase finale, en fait, où c'est important pour toi de remettre les gens à genoux, quoi.
Ah ouais, carrément, faut qu'ils se mettent à genoux, mais bon, ça va commencer dès le troisième, quatrième mois, mais dès qu'ils peuvent, surtout sur les opérations type Kenny Jones, où on va avoir une grosse cicatrice devant qui peut être un peu sensible, on va avoir un peu peur de se mettre à genoux, il faut se remettre à genoux, il faut varier les surfaces. C'est pas normal que quelqu'un qui se blesse à 20 ans ne puisse pas se mettre à genoux sur du carrelage, ou sur un sol dur, ou sur un terrain sec, j'en sais rien, mais c'est pas du tout normal, c'est important.
C'était déjà le cas avant l'opération, finalement. Il aurait fallu déjà qu'il soit capable de se mettre à genoux avant l'opération. Beaucoup de gens sont pas capables.
C'est vrai.
Il y a une phase, ça doit intégrer déjà nos protocoles de préparation.
Bien sûr.
Enfin, même pas de préparation, de prévention, pardon. Mm. Que les gens soient capables de se mettre à genoux, c'est
accroupi,
finalement...
Tout ça. C'est la vie, quoi.
Et accroupi, oui, c'est la vie.
Ouais, c'est une nécessité. Donc, ouais, ça, franchement, c'est un point vraiment important, pouvoir se remettre à genoux et assis sur les talons. Je pense que c'est quand même un minimum syndical, j'ai envie de dire. Mm. Donc, mobilité, force, proprioception, on en a parlé. Tout ce qui est psychologique, l'aspect psychologique. Je pense que cette blessure, elle a un impact extrêmement fort sur, au niveau personnel. Pareil, il y a une étude qui me vient en tête là, qui disait qu'il n'y a que 50% des gens qui reviennent à leur sport d'avant blessure. C'est, pour moi, ça me semble très très peu. Et je pense que c'est dû à notre... À un moment donné, on a raté quelque chose. 50%, c'est pas assez. On n'a peut-être pas su bien expliquer. Voilà, il y a plein de choses. Peut-être le facteur aussi socio-professionnel qui rentre en compte. On sait qu'une blessure, c'est... Voilà, pour quelqu'un qui est professionnel, normalement, il va continuer d'avoir d'être payé, etc. Ce sont des cas, mais quelqu'un qui travaille à l'usine, il peut pas, il se blesse, il travaille pas pendant 3 mois. Bah forcément, ça fait réfléchir si on a des enfants, etc. Voilà, on va peut-être pas pouvoir se permettre de revenir. Bien on sûr. Va avoir peur, cette crainte-là, parce que voilà, ça impacte pas que nous, ça impacte toute la sphère familiale aussi. Donc l'aspect psychologique est hyper important. Encore plus si on revient sur la blessure, le moment de la blessure. Voilà, vraiment retravailler la gestuelle lors de la blessure. Si c'est sur un contact, revenir travailler avec du contact. Il va falloir bouger notre athlète, le déstabiliser, lui faire reprendre conscience et confiance des mouvements dans lesquels il peut aller, dans lesquels il ne peut pas aller, et se préparer à toute éventualité. En fait, ça va être hyper important. Et dernier point, je pense, qui peut être intéressant, qui est aussi assez nouveau dans la prépa physique et dans la kiné, l'utilisation de MySprint, qu'on a appris, nous, ici, chez Transfert. Pour les opérations où on va prendre un greffon au niveau des ischio-jambiers, donc il va y avoir une fragilité, forcément, au niveau de ces ischio-jambiers. Voilà, on sait que MySprint, c'est quand même un outil hyper intéressant pour avoir le profil force-vitesse sur du sprint. Et il semblerait qu'il y ait différentes études, protocoles de recherche qui montreraient qu'un déficit de force F0 là, serait quand même un risque plus. Enfin, amènerait un risque plus élevé de blessures au niveau des ischios. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut servir, qu'on ne refait pas forcément aussi en tant que kiné, mais je pense que là, le prépa physique, il a totalement sa place là-dedans.
C'est encore une illustration de collaboration entre les deux
carrément.
Univers, bien sûr. Bien sûr.
Et il aura peut-être plus de clés là-dessus pour
qu'un kiné. MySprint, c'est un logiciel d'évaluation du mouvement spécifique au sprint et qui, sur 30 mètres, va nous permettre de dresser un profil force-vitesse qui nous permet de voir d'où provient la puissance du sportif. Est-ce que ils puissent plus dans la force ou plus dans la vitesse. Alors, outre un outil de détection de la blessure, parce qu'effectivement, on a détecté scientifiquement des corrélations entre les blessures et des profils déséquilibrés. C'est un vrai dispositif d'alerte en amont. En aval, c'est aussi un outil de return to perf, justement. On est au return to play, on est capable de courir dans de bonnes conditions. Mais pour savoir à quel moment on va pouvoir recourir aux conditions d'avant blessure, et ben là on va peut-être justement utiliser MySprint et superposer les deux profils pour savoir si effectivement on est au même niveau de puissance, de force et de vitesse qu'on avait auparavant.
Ce qui est hyper important aussi dans toutes ces évaluations de retour au sport, c'est que généralement on compare un état... On ne compare pas un état avant la blessure parce qu'on n'a pas forcément les données. On compare ça sur un hop test, on va comparer ça au test de saut sur la jambe saine au même instant qu'on va tester la jambe lésée. Et on s'est quand même rendu compte que même la jambe saine, forcément, elle perdait de la perf. Donc, en gros, si on cherche un 90%, ça va être, on ne va pas être vraiment à 90% de l'état pré-blessure, en fait. Donc, pour moi, personnellement, je pense qu'il faut essayer d'aller plus loin que les 90%. Faut qu'il dépasse ses capacités, il faut qu'il ait quasiment les mêmes perfs des deux côtés. On va dire que c'est le minimum d'avoir 90, mais il va falloir aller plus loin.
C'est un enjeu que d'être plus fort qu'avant. Ouais.
Et puis, carrément, et pour les sportifs de haut niveau, généralement, qui ont eu un screening pré-saison, etc., ça a un intérêt vraiment, vraiment top pour justement valider le retour au terrain, le retour à la perf aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Si vous avez la possibilité de le faire, faites des screenings de différents tests, bien choisis, forcément.
Hyper intéressant. Merci vraiment, Simon, d'être revenu partager avec nous.
Merci à toi.
Voilà, prenez soin de vos athlètes, prenez soin de leurs genoux avant l'opération, si possible, hein, avant les blessures. Une fois que la blessure est là, ben, il va falloir effectivement être prudent, progressif, méthodique, tester, évaluer, prendre des décisions sages. Et souvent, il est urgent de prendre son temps. Hein. Le fait de ne pas se précipiter, c'est ce qui va faire gagner du temps au global.
C'est ça.
Vous savez que vous rentrez dans un tunnel long de toute façon, donc gagner 2 semaines, à quoi bon ? Faites les choses bien, proprement, contrôlez davantage la qualité de ce que vous faites que véritablement l'intensité et la qualité qui sont…
Je pense que pour finir, il faut voir cette blessure et cette phase d'arrêt comme un moment pour développer d'autres capacités. Si on a besoin de développer le haut du corps, il ne faut pas hésiter. Et voilà, il faut voir le bon côté, se tuer à la tâche… On peut courir à 3 mois, ça nous laisse minimum 6 mois pour avoir un cardio de l'espace et revenir meilleur que les autres sur le cardio. Donc,
bien sûr.
Faut voir ça comme ça. Et puis,
bien sûr,
c'est pas le choix.
Ce sont des occasions de développer d'autres paramètres au max du max et de revenir plus fort qu'avant, ce qui ne nous tue pas.
Hein. Nous rend plus fort.
Exactement. En tout cas, merci. Tu reviens quand tu veux.
Avec plaisir.
Tu connais le chemin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous suivez ce podcast, peut-être sur mon site en version enrichie. Peut-être que vous le regardez sur YouTube, vous l'écoutez peut-être en audio sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast ou sur Google Podcast. Dans tous les cas, il y a des épisodes complémentaires que vous pouvez retrouver sur le e-campus de transfert. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes ABD Podcast.
Salut.
C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.